Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. L'homme que nous recevons aujourd'hui est un survivant, a survivor, comme disent les Anglais. Uno sobreviviente, comme on dit en espagnol, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Survivant à tous les sens du terme. D'abord parce qu'il a survécu à 30 ans de Festival de Cannes, qu'il a couvert, littéralement parlant. Rédac-chef culture de Libération, il a littéralement couvert, oui c'est le mot, les exactions cinéphiliques de ses camarades critiques, à commencer par les siennes. Il les a aussi couverts, ses protégés, au sens propre du terme, des caprices de la météo cannoise qui peut passer du chaud au froid à l'humide, en moins de temps qu'il n'en faut à Théo Angelopoulos pour changer de plan. Il les a couverts aussi, certains en tout cas, il n'en cache rien dans son livre, dans une acception plus sensuelle, comme l'on dit que le taureau a couvert la vache ou Jean-Claude Nicole, tant il est vrai que c'est une frénésie sexuelle qui s'empare de la paisible bourgade cannoise pendant le festival. Couvert enfin, comme il se dit, des couverts qu'on utilise couramment pour se nourrir, et Dieu sait s'il est capital de s'alimenter pendant le marathon cannois, comme pendant le Tour de France, surtout si l'on veut éponger les excédents de liquide alcoolisé et autres substances. Enfin bon, Gérard Lefort, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a donc couvert pendant 30 ans tout ce qui bougeait dans le lupanar cinématographique cannois. Mais c'est aussi un survivant, j'y reviens, puisque victime lui aussi, en tant que critique ciné, de la sixième extinction de masse, au même titre que 30 000 vertébrés. Oui, n'hésitons pas à le dire, la profession s'est considérablement vulgarisée ces dernières années, avec l'apparition des réseaux sociaux, l'argumentation cinéphilique se résumant désormais à quelques étoiles aléatoirement distribuées par des individus aussi qualifiés que moi pour changer une Charline Roux de secours. Voilà quelques-uns des sujets dont il va être question avec Gérard Lefort et c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Bonjour Gérard Lefort.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans Popopop. Aujourd'hui, on va donc parler de Cannes avec La Foire aux Vanités, votre livre qui sort dans quelques jours aux éditions Hors Collection. À mes côtés, celle qui porte un col roulé pour éviter de faire ce qu'on appelle dans le milieu une Sophie Marceau. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine, bonjour Gérard.
N'est pas trop chaud ?
Non, mais plutôt la sudation que le nip slip.
D'accord. Façon. Au menu également de Popopop avec nous tout à l'heure, le réalisateur Denis Parot qui viendra nous présenter son film Coming Out.
Okay, ready?
Yeah.
Okay.
Oh, so good, Tommy.
Et voilà pour cette spéciale ciné-cinéma. Tcha. Mais avant ça, Gérard Lefort, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, il existe une question qui peut faire encore plus mal à la susceptibilité des équipes de cinéma que Jean-Pierre Mocky.
T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul.
Oh, moteur.
Enlevez ces deux cons qui sont là-bas.
Alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors allez où la caméra?
Moteur.
Et cette question c'est... Gérard Lefort, pour vous c'est quoi la pop culture? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses tapis rougesques, canoisiteuses, paparazzées ou même cagolisantes. Et parmi mes préférés, il y a celle de Jean-Paul Gaultier avec qui vous avez passé une nuit à regarder l'Eurovision.
Ben la pop culture, c'est à la limite pop, ça vient de populaire. Donc comment est-ce que j'ai appris moi la pop culture? Je dirais à travers la télévision. Donc c'est plein d'émissions, c'est à la fois ça regroupe la musique, ça peut être la variété, tout ce qui touche les gens en fin de compte, la pop culture.
Tout ce qui touche les gens est pour vous Gérard Lefort.
Bon, il est formidable l'ami Jean-Paul, c'est exactement ça. C'est pop, pop. Pop, populaire, pop. Comme vous
il
dites.
Est plus passé par la télévision quand même, lui.
Non, moi aussi. Oui. Parce que c'est une des raisons de notre amitié profonde et ancienne. C'est que moi, la première fois que je vois un film, c'est à la télé, c'est pas au cinéma. Ouais. Parce que je suis de cette génération, etc. Bon, bref. Mais Jean-Paul a raison, c'est populaire qui est intéressant dans pop culture. Puis moi, ça me fait penser à des trucs, à des bulles, un truc qui éclate, enfin, qui fait pop-up, quoi. Et puis à, bah oui, puis aussi au pop art aussi, pas exagérer, pas jouer les imbéciles.
Sans être indiscret, comment, enfin, vous en parlez dans votre livre, comment se retrouve dans une suite cannoise pour regarder l'Eurovision pendant le festival avec Jean-Paul Gaultier, s'il vous plaît?
Eh bien, cette année-là,
oui.
Jean-Paul faisait partie du jury, à juste titre, parce que c'est un sacré cinéphile populaire, Gaultier. Et, voilà, il sèche les réunions du jury, il dit pas, il dit j'ai mal à ma gorgette, j'ai mal à ma gorge. En fait, pas du tout. C'était pour qu'on voit il m'invite donc à aller voir dans sa suite de l'hôtel Martinez. Assez joli, d'ailleurs, c'est assez grand. Hein, ils ont du recul pour réfléchir là-bas.
Ouais.
Et il me dit, surtout, tu dis rien, tu cries pas, parce qu'il y a une autre jurée qui est juste au-dessus, et si jamais elle apprend et tout ça, que je sèche les réunions, parce qu'on va regarder le Grand Prix Eurovision, ce qu'on fait tous les ans depuis une vingtaine d'années, quand même, si vous voulez. Donc, Ankara Ten Point n'a pas de secret pour nous. Mais Jean-Paul, que vous connaissez aussi bien que moi, évidemment, au bout d'une minute, se met à hurler. Et on a entendu vraiment, pas, je ne sais pas si c'était un ballet, mais dans la suite du dessus, toc, 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 toc. Donc,
espérons que c'était un ballet. Fort.
Une seconde, monseigneur. Excuse-moi si je te demande pardon. Et je me permets de parasiter ton émission de merde, là. Et ça, c'est histoire de prouver deux choses à tes pauvres auditeurs que tu roules dans la farine tous les jours. Ouais. D'ailleurs, pain égale farine. Et des pains, c'est pas exclu que je vais l'en distribuer dans votre gueule. Ah, pop, 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 ouais. Un de ces quatre. Ah, c'est mon côté petit Jésus, ça. Donc, petit 1, t'es pas en direct. Vu que monsieur s'offre un break d'une semaine avec son équipe de tapettes. Et petit 2, t'es pas là pour rendre hommage à Dick. Et faut bien que je m'y colle, moi, Didier, le plus grand fan de Dick. Après Dick lui-même, bien sûr. Alors voilà, Dick, c'était le plus grand. Pas en taille, hein. Non, par le talent. Et une voix comme ça, je vais vous dire. Depuis Elvis, on n'avait pas entendu ça. D'ailleurs, Dick, il s'appelait Dick en hommage au King. Ouais, Elvis, dans le vignoble, il s'appelait Dickie Rivers. Et bah du coup, Dick, bah, il s'est appelé Dick Rivers. Ouais. Pin Rivière, en francaoui. Le titre français de Loving You, c'était Amour Frénétique. Et à un moment, Dick, il avait pensé s'appeler Frénétic Rivers. Mais finalement, bah, il était resté sur Dick. Attendez, c'est pas tout. Dick et Elvis, eh ben, ils se connaissaient. Ouais, enfin, surtout Dick, hein, qui connaissait Elvis. Ouais, Dick, il avait croisé Dickie, enfin, Elvis, quoi, dans un ascenseur à Vegas. Et ils avaient fait une photo ensemble, comme quand tu poses avec Dingo à Disney, couille de Meadowland. Enfin bon, Dick, il n'y en avait pas deux comme lui. Ben là, il n'y en a plus aucun. Et l'autre grosse tapette de Decaune, là, qui se gratte les burnes sur une plage de l'Ouest. Tiens, j'espère qu'il se prend bien la flotte, ce connard. En tout cas, moi, au moins, j'aurais pris la peine de dire que j'en ai de la peine. Allez, salut l'artiste, et compte sur moi pour faire vivre ta mémoire. Et tiens, pas plus tard que tout de suite. Allez, musique!
Pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un Gérard qui nous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes. Mais qui est-ce ? Gérard Depardieu, Gérard Jugnot, Gérard Lefort, Gérard Langue de Pute ? Bah, vu le pitch, à mon avis, c'est plutôt Gérard Langue de Pute. Enfin, pour le savoir, passons à son pop portrait. Et son pop portrait, bah, c'est son portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline...
Alors j'espère vraiment que l'invité qui se trouve avec nous en studio est bien Gérard Lefort et non Bill Cherneau, son alias démoniaque, ce qui nous assure une critique acerbe de l'émission. Critique, c'est en partie le métier de notre invité, mais aussi à mes yeux une qualité et un exercice périlleux sans échauffement et muscles adaptés. Notre invité en a fait démonstration d'esprit critique dans les pages de Libé en parlant de télé. Oh, que donnerais-je aujourd'hui pour le coller toute une journée devant... Enfin non, on n'a dit pas de nom. En écrivant aussi et bien sûr sur le ciné. Oh, que donnerais-je aujourd'hui pour le coller devant l'intégrale de... Non, on n'a dit aussi pas de nom, mais disons seulement que je parle des films qui feraient passer Germain Nul pour une palme. Et notre invité a aussi commenté la mode, la photographie, un style inimitable et un verbe haut entendu de manière récurrente sur France Inter, preuve du bon goût et du goût même délicieux de ce monsieur. C'est l'auteur que nous recevons aujourd'hui, celui du Poulpe, exercice auquel il s'est aussi essayé en inventant une aventure de Gabriel Le Couvreur, Vomis soi qui mal y pense, celui des Amygdales aussi, l'histoire d'un gamin qui regarde sa famille à la loupe et ne l'épargne pas, ou encore du roman Le Commun des Mortels, qui au hasard d'existence inventée racontait des hommes et des femmes de tous les jours, des scènes fugaces. Aujourd'hui, bravant l'adage qui dit « Non mais Cannes, c'est chiant, c'est mieux à Cabourg », eh bien, il vient nous présenter sa foire aux vanités.
Vous êtes bien Gérard Lefort?
Ah, c'est tout à fait moi. Merci, super le portrait.
Moi, c'est bien. C'est bien vous. Vous êtes, c'est bien.
Ah, je suis content
dans ce studio là.
Oui. Qui êtes-vous?
Non, un petit problème. Bon, Gérard Lefort, vous avez longtemps fait passer la pop culture dans votre moulinette. Vous êtes donc habitué à l'exercice. Ça tombe bien, c'est l'heure de votre pop liste. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur « À la recherche du temps perdu », écrit par Marcel Proust, paru en 7 tomes entre 1913 et 1927. Charline, je confonds toujours Marcel Proust et Gaspard Proust. Je sais que l'un des deux a travaillé dans la finance, mais je ne me souviens jamais lequel.
Marcel. Celui qui a aussi écrit dans l'ordre « Du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, Sodome et Gomorre 1 et 2, la prisonnière Albertine a disparu. Et le temps retrouvé, si j'ai bien compris, c'est un livre de cuisine qui contient une très très bonne recette de Madeleine.
Mm-hmm, ça se résume à ça. Bon, Gérard Lefort, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît, pour qu'on retrouve cette petite musique
proustienne? Ah oui, il a beaucoup de la petite musique. Avec un immense plaisir. Alors allons-y. Le salon Verdurin passait pour un temple de la musique. C'était là, assurait-on, que Vinteuil avait trouvé inspiration, encouragement. Or, si la sonate de Vinteuil restait entièrement incomprise et à peu près inconnue, son nom, prononcé comme celui du plus grand musicien contemporain, exerçait un prestige extraordinaire. Enfin, certains jeunes gens du faubourg s'étant avisés, qu'ils devaient être aussi instruits que des bourgeois. Il y en avait 3 parmi eux qui avaient appris la musique et auprès desquels la sonate de Vinteuil jouissait d'une réputation énorme. Ils en parlèrent rentrés chez eux, à la mère intelligente qui les avait poussés à se cultiver, et s'intéressant aux études de leur fils, aux concerts, les mères regardaient avec un certain respect Madame Verdurin dans sa première loge, qui suivait la partition. Ça y est, c'est fini. Vous avez remarqué, exceptionnellement, il fait des phrases qui font moins de 4 pages.
Absolument.
C'est des haïkus proustiens.
Alors pourquoi avoir choisi ce moustachu qui pèse évidemment infiniment plus que Tom Selleck dans la pop culture?
Eh bien, moustache pour moustache. Oui, c'est un bouquin, comme on dit, que dans le livre de chevet, ça, je l'ai lu très très tard, moi, j'ai pas du tout, mais dès 14 ans, pas du tout. Si, j'ai essayé dès 14 ans, je trouvais ça d'un ennui féroce, j'arrêtais, je reprenais, impossible de continuer. Puis d'un seul coup, ça m'est tombé dessus, il y a des bouquins comme ça, puis vous les lâchez plus, c'est tout un été avec Marcel Chauff, et donc ça a été un truc de... C'est des tentatives au début du XXe siècle de faire la littérature totale et après moi le déluge. Enfin, c'est un peu, il y en a pas beaucoup. Il y a Beckett, lui. Et c'est un bouquin. On se dit, mais comment peut-on encore écrire derrière, quoi? Comment peut-on passer derrière? Bah si, parce que c'est quand même très encourageant. Il y a des grandes plages d'ennui dans la recherche. Faut pas avoir peur de le dire. Et faut pas avoir peur de sauter des passages qui vous ennuient, parce que lui-même préconise quand il parle, bah, parce que évidemment c'est pas lui, c'est le narrateur, etc. Mais qu'il parle de littérature ou de peinture, il dit qu'il faut passer, quoi, quand ça vous ennuie. Je trouve que c'est une espèce de... C'est un manuel de savoir-vivre, je trouve, la recherche du temps perdu. Quoi. Il y a quelque chose comme ça de... Enfin, pour moi, je... Et puis, quand vous avez un coup de blues, vous lisez Marcel, et là, vous comprenez que vous n'êtes pas seul au monde. Hein.
Très bien, ben voilà des raisons de lire ou relire La recherche du temps perdu. Gérard, maintenant, pour le film, vous avez choisi Les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Jacques Demy en 67. Charline, auriez-vous l'amabilité de rappeler une fois de plus à nos plus jeunes auditeurs que ces demoiselles n'ont rien à voir avec Jean Rochefort, qui de toute façon préférait les chevaux?
Oui, c'est l'histoire bien sûr de sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. La blonde c'est Delphine, elle donne des leçons de danse, et la rousse c'est Solange, elle donne des cours de solfège. Elles rêvent toutes les deux de rencontrer le grand amour.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très
Gérard Lefort qui chante en même temps,
bah oui.
Qui fait un petit karaoké là.
Ouais.
Ça vous fait quel effet de réentendre les sœurs Garnier qui ont 25 ans depuis
Voilà, ben, on enchaîne avec Marcel, c'est mon effet Madeleine. Mmh. Alors il se trouve que le premier film que j'ai vu seul au cinéma, ça compte, quand on est gamin, je vais avoir 12-13 ans, c'était pas Les Demoiselles, c'était Les Parapluies de Cherbourg. Oui. C'était dans une station balnéaire de la côte bretonne.
Où il pleuvait donc.
Et oui.
Oui.
Et oui, c'est étonnant. C'est le jour où il pleuvait, et ces jours-là, vous savez, on ouvrait les cinémas l'après-midi, et coup de bol, coup de chance, coup de hasard, qu'est-ce que je vais voir avec mes quelques francs que ma maman m'avait donné? Et ben, je tombe sur Les Parapluies de Cherbourg. Bon, alors, j'ai un peu saoulé ma famille suite à cette vision, je leur ai tout chanté, ce que je faisais, dès le réveil jusqu'au coucher. Donc tout un été, ils s'en souviennent très très bien. Et puis c'est le demi, c'est pour moi, c'est ce qu'on a entendu, c'est l'allégresse, mm-hmm. la joie de vivre et aussi une certaine mélancolie et gravité. Mm-hmm. C'est pas si drôle que ça, les films de Jacques Demy, si on les regarde de très près, et y compris Les Demoiselles, parce que c'est quand même que des histoires de gens qui se ratent, qui n'arrêtent pas de se rater, qui ont raté leur vie. Mm-hmm. Bon, après ça se retambouille dans le bon sens, ils vont tous se retrouver. Mais le fond de l'affaire, c'est que ben, on se rate tous toujours dans la vie, dans l'amour.
Mais non, pas toujours.
Mais si Gérard,
je vais vous remonter le moral.
Je t'assure,
pas.
Antoine.
Mais non, mais si on prend. Bon, Gérard Lefort, continuons l'exploration de votre planète pop avec la série. Et là, vous avez choisi cette série Sense8, créée par Lily Wachowski et Lana Wachowski, et diffusée sur Netflix entre 2015 et 2018. Charline, résumez-nous l'intrigue imaginée par ces deux demoiselles qui ne viennent pas du tout de Rochefort et n'ont donc aucun rapport non plus avec Jean qui de toute façon préférait les chevaux.
8 individus vivant dans des coins différents du globe se retrouvent connectés par une vision. Ils sont maintenant liés, ils sont capables de se voir, de se sentir, de s'entendre, de se parler comme s'ils étaient les uns à côté des autres. Pas facile de s'adapter à ce nouveau don et surtout, pourquoi en ont-ils hérité ?
Peu savent ce que c'est que de renaître un jour en sensitif.
En quoi ?
On commencera à percevoir des choses étranges. De la colère, de la joie, de la douleur. Du plaisir, sans aucune raison. Tu as 7 autres toi. Tu accéderas aux connaissances, compétences et à la langue de chacun.
Sense8 des sœurs Wachowski qui ne sont pas jumelles. C'est une série que vous avez binge-watchée, comme on dit dans les EHPAD.
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les sœurs s'appelaient, les sœurs étaient des frères. Il y a quelques années, c'était les frères Wachowski. Donc,
Matrix. Bien,
ben voilà. Donc, créateur de Matrix, des trois Matrix. Et, après qu'on fait des films un peu spéciaux, c'est moins qu'on puisse dire. Jupiter, je sais pas si vous avez vu ça, c'était
Jupiter
quelque chose.
Jupiter Ascending? J'ai rien compris.
Mais moi non plus, c'est
d'accord.
Ça qui est bien.
Et
Sense, donc, 8, 8 Sense, pareil, on comprend pas tout. D'ailleurs, l'extrait de la version française est assez marrante. Hein. J'ai 7 machins, un truc bizarre. Mais je trouve que ces types, ces demoiselles maintenant, alors elles sont pas du tout sur la ligne Marilyn Monroe dans leur transformation.
Non,
c'est
non,
plutôt
non.
Concierge, quoi. Bon, et il en faut. C'est vachement bien. Mais si, il en faut. Non, je trouve qu'ils devraient faire un film sur eux. Parce que la plus belle science-fiction, c'est quand même ce qui leur est arrivé. Parce qu'il y en a un qui dit « Ouais, moi j'en ai marre, je veux devenir une femme. » Bon, pourquoi pas, donc voilà. Et le frère, des années après, il dit « Ah bah moi aussi j'ai envie de devenir une femme. » Donc les frères deviennent des sœurs. C'est un sujet de film absolument... La vraie fiction, je trouve, ça serait l'histoire de leur vie.
Mais pas envie de le faire, vous ?
Bah non, parce que j'ai... Pour l'instant, c'est bon, je reste ce que
non, non,
je
veux dire écrire. Écrire l'histoire.
Écrire,
je vous proposais pas de la transformation.
Bah oui, mais j'ai eu peur. Et puis, une série en réseau qui est complètement... Alors, si on rate un épisode, effectivement, on est un peu perdu, parce que ça se passe aux quatre coins de tout, au Japon et tout. Mais j'aime bien les histoires de transmission de pensée, où un type qui a une espèce de van, qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, quand même son van, en Afrique du Sud... en transmission de pensée, se met en connexion avec une Coréenne qui est une latteuse d'enfer. Enfin, c'est Miss Kung Fu, et du coup, il est champion du Kung Fu, alors qu'il est malade. Donc, c'est assez marrant. Puis c'est, disons, assez contestataire comme série, quoi.
Okay.
C'est militant.
Sense8, très bien, nous allons nous pencher sur le problème. Enfin, Gérard Lefort, nous allons terminer cette pop-liste avec votre chanson culte, et c'est celle-ci. « My Way, tube planétaire du chanceux Jacques Revaux, hein, dans la version Sid Vicious en 1979.
Je m'y ferai jamais.
En 1979. Alors, plutôt cette version-là que celle de Claude François.
Curieusement.
Sous Frank Sinatra.
Curieusement. Ouais. Ben, je trouve enfin, My Way, réinterprété par le punk. Je trouve que c'est ma culture, c'est mon époque, c'est le moment où je suis jeune, c'est bon, voilà. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose de, on va dire, mais c'est Mozart qu'on assassine. Non, c'est pas Mozart, mais ouais, tu vas déconner.
Mozart est déjà mort.
Oui, et puis oui, exactement, il viendra pas nous le reprocher. Et puis je trouve qu'il y a une espèce de d'allégresse et de qui est un peu perdue aujourd'hui. Enfin, de genre de, bon, les punks évidemment, et Sid Vicious en particulier. Bon, destin un peu fulgurant parce qu'il est là, s'il a fait la bêtise de mourir trop tôt.
Mais voilà, moi j'aurais pas associé allégresse et punk directement.
Ben si, quand même. Là, quand on écoute cette version de My Way, qui est quand même c'est à la tronçonneuse, hein, quand même.
Ouais.
Ah ben légèrement. Oui. Et je trouve qu'il y a une si une allégresse que c'est le. C'est l'insolence absolue pour moi. C'est le mec qui y va, qui chante pas très juste. Enfin, c'est vraiment, c'est pire qu'à la tronçonneuse par moment. Ouais. Et j'aime bien cette idée qu'il n'y a aucun respect pour effectivement ce que vous disiez. C'était un tube mondial repris par tout le monde, y compris. Mais la version Sinatra est vachement belle.
Sid Vicious, l'illustration littérale du nos futurs. Hein.
Absolument.
Voilà. Bon. Alors je résume. Marcel Proust, Les Demoiselles de Rochefort, My Way, Sense 8. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Peu savent ce que c'est que de renaître un jour en sensitif.
Nous sommes deux sœurs jumelles.
Il y en avait trois parmi eux, près desquels la sonate de Vinteuil jouissait d'une réputation énorme.
De la joie, de la douleur, du plaisir. Tu as sept autres toits.
Ça, c'est ce qu'il y a dans la tête de Gérard Lefort quand on se réveille après une soirée canoise un peu arrosée.
C'est exactement ça.
Ça agitait quand même. Hein.
Ouais, mais là, ils m'ont branché un truc, un pod, comme on dit, dans le crâne. Là. C'est exactement ça.
Très bien, mais j'ai une boîte d'Efferalgan à votre disposition, mon cher Gérard.
J'ai cru que c'était des chocolats.
Oui, c'est des chocolats aussi. Ah, avant de continuer à parler du Festival de Cannes, on va écouter celui qui a fait péter la croisette en 94 avec cette BO. Miss Shirley, Dick Dale dans Pop 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 sur France Inter, c'est extrait évidemment de la BO de Pulp Fiction. Gérard Lefort, vous étiez dans la salle en 94 quand Tarantino a lancé un retentissant fuck à l'intention d'une personne qui venait d'hurler « Putain, fais chier, quelle daube !» alors qu'il était sur scène pour recevoir sa Palme d'Or.
Oui, c'était, ouais. Mais c'est toujours rock'n'roll, hein, les Palmes d'Or. Bon, il y a un célèbre de Piala qui fait le bras d'honneur. Si vous n'aimez
pas,
je n'aimais pas, non
plus.
Très belle imitation.
Hein?
Très belle imitation.
Mais je trouve que c'est assagi, tout ça. Je trouve que les gens sont gentils, ils disent merci gentiment. Il n'y a personne, il n'y a pas de bronca dans la salle. C'était, c'était quand même plus rock'n'roll, c'était plus rigolo, non?
Absolument. Hein? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de robe longue, de tapis rouge et de « Eh, mais c'est pas bras de Pitt qui sort du Martinez, là ?» On va donc parler du Festival de Cannes. Et on en parle avec La Foire aux Vanités, le livre de Gérard Lefort, qui sort dans quelques jours aux éditions Hors Collection. Alors, La Foire aux Vanités, déjà, c'est un titre que vous empruntez, et ça, c'est moche, Gérard, à William Thackeray, auteur d'un livre portant le même nom, paru en 1847, et qui moquait la société anglaise du début du 19e. C'est une inspiration?
Ah, bah, direct. C'est un bouquin qui m'a, autant que Proust, qui m'a complètement plu et marqué, qui n'est pas très connu. On le connaît parce que c'est aussi l'écrivain qui a écrit Barry Lyndon. Oui. Donc on connaît mieux Because, le film de Kubrick, etc. Et ce bouquin, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un reportage aujourd'hui. Et c'est magnifiquement écrit, quand on a la chance de bien lire l'anglais, et traduit en français, c'est super.
Et
bien
sûr que c'est... en même temps, pas de meilleur titre pour parler de Cannes, enfin du Festival de Cannes.
Oui.
Car Cannes ne se résume pas au Festival.
Pratiquement, c'est quand même pour moi, pour vous, je suppose, vous y avez été beaucoup. C'est la foire. Donc dans la foire, il y a des manèges, c'est très bien, il y a le Grand 8, le train fantôme, tout ça. Et puis aux vanités, parce que tout le monde perd la boule, quoi. Mais je me mets pas en dehors, hein. Tout le monde devient moitié zinzin. C'est pas normal d'abord de voir des films à 8h30 du matin. C'est inhumain.
Jusqu'à une nuit passée, etc.
C'est pas normal d'être, de pouvoir en voir 4, 5. Il y a des givrés qu'on voit 6 ou 7 par jour. Mais c'est possible. C'est possible. Humainement, c'est difficile. Biologiquement, c'est encore pire. Mais c'est possible. Donc tout ça est anormal. Et je trouve que, pour résumer, je trouve que c'est une immense crise de nerfs qui dure une dizaine de jours. Quoi. Non, je sais pas.
On saurait mieux dire.
Dans le livre, vous parlez de, je cite, récits de vacances en festival. Est-ce que c'est ainsi que vous avez conçu tous vos séjours là-bas ou vous parlez uniquement des off?
Non, c'était l'idée que quand on est jeune, quand voilà, les rois du monde et tout ça, on partait en colonie de vacances. Mmh. C'était l'idée. Bon, on prenait l'avion, donc c'était quand même des colonies de vacances de luxe. Puis après, on a pris le train parce que les budgets se sont resserrés.
Et après le stop.
Après, on est parti en stop, mais il y avait un côté plus vite chauffeur quoi, quand on descendait à Cannes. Oui, colonie de vacances et extraterritorialité. Voilà, j'ai réussi à le dire. C'est-à-dire hors sol, hors la loi et souvent hors de tout, quoi. Bon, voilà.
La Foire aux Vanités, c'est le Festival de Cannes vu de l'intérieur par un critique influent dont le journal a longtemps fait la pluie et le beau temps cinéphile.
Surtout la pluie.
Mais c'est aussi les à côté. En fait, c'est tout le festival que vous racontez. Bah, c'est sous des dehors légers.
Ouais, c'est nuit et jour. Donc, il faut. Bah, il y a des chapitres qui s'appellent Sur le cul, par exemple, ou d'autres. Un autre qui s'appelle Stupéfiant. Et vous imaginez de quoi je parle, quoi.
Très bien.
L'émission de Léa Salamé, bien sûr, de l'adorable Léa Salamé. Et donc, c'était de raconter la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne, c'est fait aussi des histoires de. Quand est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange pas? Tiens, si on mangeait plus pendant 10 jours. Moi, j'ai entendu des collègues qui ont dit ça. Moi, je mange pas. Il y en a qui ont dit, je dors pas, ça me fatigue. C'est formidable. Il y a Kekan, qu'on peut entendre ça, quelqu'un qui vous dit froidement, ah non, je dors pas, moi, je dors plus, ça me fatigue. Donc c'est, voilà, quand je parlais de crise de nerfs, je crois qu'on résume assez bien la situation. Donc c'est effectivement, bah, banalement, oui, des à côté, mais des à côté qui sont plein dedans, quoi. Parce que vous avez vécu les projections du soir espoir où, la moitié de la salle s'endort, quand même, il faut dire la vérité pour une, hein.
Mais vous avez aussi été très studieux à Cannes. On peut lire dans La Foire aux Vanités, critiquer n'est pas un état naturel, il faut s'y mettre. Comment est-ce que vous vous y êtes mis et qui plus est, sur place?
Ben, c'est, là aussi, c'est pas normal d'être critique de cinéma. Ou alors, on devrait être dans un état critique toute la journée, politiquement, socialement et tout. Ou même ici, on est un peu dans un état critique. Hein, Antoine?
Très très bien.
Bon, oui, il écoute.
Mais si, je vous écoute.
Il ne veut pas entendre.
Pas du tout, je ne suis pas assoupi.
Non, au contraire. Enfin... Oui, on est arrivé, Antoine.
Oui.
Et donc, non, ouais, vous pour vous répondre, c'est se mettre dans un état bizarre qui est... qui n'est pas du tout les nerfs en boule, c'est plutôt qu'on a l'impression qu'il y a une surmultiplication de tous les sens, parce que le cinéma, voilà, du son, des images, machin. C'est pour ça que je consacre un bout de chapitre au fait que souvent on s'endort devant les films à Cannes, mais c'est pas grave parce qu'on dort pas. Bon, les rêves, c'est important quand même.
Oui, mais alors si vous permettez, Gérard, laissez-moi rebondir là-dessus. Justement, cette abondance de films, ces films qu'on voit en répétition. Bon, comment fait-on quand on est critique pour garder dans une ambiance aussi fébrile la distance nécessaire pour pas se laisser emporter par cette effervescence?
Alors il y a plusieurs solutions. Il y a fermer les écoutilles. Il y a la première solution, c'est on n'écoute surtout pas les chers collègues qui dès la fin du film font des conférences de presse sur le parvis.
Évidemment.
Alors c'est un chien. Non mais vous n'allez pas tomber dans le panneau. Enfin bon, etc. Et puis donc faut fermer les écoutilles. Et puis après, si le film est bon, tout vient du film, tout tombe du film, les idées, les images, les sons, les acteurs, les actrices.
Mais je veux dire, vous ne dans cette crise de nerfs de qui dure 10 jours, vous ne regrettez pas, par exemple, certains bons mots, pour le plaisir du bon mot,
ou
des jugements un peu expéditifs sur lesquels vous auriez pu relativiser un peu après?
Non, mon Tom, c'est bien, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, quoi. Bon, ça, c'est la règle. Mm-hmm. Donc, non, les bons mots, non, au contraire. Bon, il y en a eu des terribles, je dois reconnaître. Je ris comme un idiot à des blagues que j'ai faites, c'est quand même lamentable.
Quoi, par exemple, la chronique d'une merde annoncée,
par exemple, au hasard.
Le film de Rossi,
au hasard.
D'une mort annoncée, je pense qu'il.
Ouais, mais il y avait eu aussi Orcane, il y a eu aussi. Vous savez, il y a eu Blaireau chinois, mon amour, à propos de l'amende de Jean-Jacques Hano. Mais j'ai vu, il paraît que.
Germinul aussi.
Germinul, qu'on adorait. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Mm. Mais vous savez, c'était le côté colonie de vacances. Ouais. Et souvent, c'était pas moi qui les trouvais. C'est ce qu'on appelle les secrétaires de rédaction, les éditeurs. Et le chronique d'une merde annoncée, c'est venu comme ça. Le gars qui était formidable, Serge Loupias, enfin, donnez son nom, Bernard Loupias, dit mais enfin, c'est une merde. Il est une mine du mec. C'est une merde. J'ai fini, oui, c'est une merde. C'est une merde. On a qu'à mettre chronique d'une merde annoncée. Et hop là. Et après, c'est les meutes et machin, on demande ma tête, enfin bon, bref.
Votre histoire avec ce festival est placée sous le signe de l'altérité, pour ne pas dire la folie. Puisqu'à Cannes, vous n'êtes pas Gérard Lefort, mais Gerard Leford, quand ce n'est pas Marie Loll ou Bill Cherneau.
C'est vrai.
Vous êtes plusieurs à Cannes, donc.
On vient nombreux.
Hein. Et vous êtes plusieurs.
Tout seul.
Oui, je suis
plusieurs. Vous êtes vous-même nombreux, tout seul.
Vous avez bien que on est venu à quatre, là. Vous voyez, c'est
Bonjour
Bill. Il y a tout le monde.
Très bien.
Oui, l'idée, c'était, en tout cas, en ce qui concerne Bill Cherneau, c'était d'inventer un pseudonyme collectif qui pouvait rassembler toutes les notules des uns et des autres. En gros, c'était pour tous les films.
Que vous n'aimiez
pas. On a les films à chier, quoi. Tous les films à chier, quoi. Donc,
Et Marie Loll, il naît comment?
Alors, Marie Loll, c'est un coup de chaud. Je dois dire. Comme on est quand même à Cannes, et il suffit d'avoir été une fois dans sa vie dans une pharmacie cannoise, surtout rue d'Antibes, et vous tombez sur une pharmacienne qui, c'est le sketch de Sylvie Joly, quoi. C'est pharmacienne, il n'y a pas écrit, bon. Et en fait, si. Si, donc la nana essaie de vous placer un nombre de trucs et il y a eu ce déclencheur. Je crois que je voulais acheter de l'aspirine, quoi. Et elle me fourre quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'aspirine. Elle me dit attention, bien utilisé c'est tip top, mal utilisé c'est la cata. Et là, je dois dire, il faut que je fasse un petit personnage. Donc, c'est devenu Marie Loll, qui était enregistrée, qui était balancée sur le net de Libération tous les soirs. Ça a été un grand moment.
Gérard Lefort, ce festival de Cannes, pour le définir, vous employez un mot pandémonium. C'est un néologisme inventé à la fin du XVIIe par le poète anglais John Milton pour désigner un lieu où règne chaos, confusion, vacarme et fureur, autrement dit, un enfer. Mais il y a quand même une notion de paradis à Cannes.
Ouais, c'est l'enfer du paradis, le paradis de l'enfer. Enfin, sans jeu de mots, c'est pas pour faire son malin, mais on va pas non plus se plaindre quand on est journaliste pour Libé ou comme ça m'est arrivé pour Canal avec Philippe Vecchi. On va pas venir pigner en plus d'être voir les plus beaux films du monde dans les plus belles salles du monde, donc pas exagéré. Donc le paradis, il est là. Curieusement, il y a un effet. Enfin, si tout est irréel à Cannes, par contre, curieusement, c'est les films qui sont réels. Mmh. C'est-à-dire que là, on va quasiment se reposer de la cinglerie qui est dehors en enlevant, comme disait Wenders, des nouvelles du monde, etc. Bon, mais c'est vrai que c'est très paradoxal d'être journaliste à Cannes, parce que tout le monde se croit le plus important du monde. Alors ça c'est un peu tassé, mais moi j'ai entendu des collègues qui perdaient littéralement la tête, quoi, qui disaient oh, mais attends, moi je vais te le descendre, ça fera pas une entrée, le film fait 4 millions d'entrées derrière, bon bah c'est un grand classique. Et ils avaient pas beaucoup, je suis pas le seul, mais très peu avaient l'humour d'eux-mêmes, c'est-à-dire le recul dont vous parliez, c'est-à-dire d'être à un mètre du truc et puis se dire mais enfin quand même.
Mais peut-être c'était des gens qui n'avaient pas votre régime sur place, puisque vous vous confiez aussi dans le livre sur vos addictions.
Ah bon?
Les sardines connétables et le pâté Hénaff.
Ah oui,
ah, oui,
ça c'est honorable.
C'est la base.
Oui, oui,
c'est la base.
Je trouve ça très surprenant.
Hénaff, le pâté du Mataf. J'ai aucune action dans l'entreprise. C'est leur slogan. Oui, ouais, mais c'est très important de manger ou de ne pas manger à Cannes. Même si l'arnaque est à tous les coins de rue. Quand même, vous avez le sandwich jambon sans cornichon à 12,50 €
Le parisien, oui.
Ouais.
Bien, c'est un livre absolument savoureux et spirituel, Gérard. Il parle de cette relation amour-haine qu'on entretient avec ce festival qui ne ressemble à aucun autre. Et il est plus que chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Ne bougez pas, on a encore plein de choses à se dire. Mais auparavant, est-ce que vous savez faire ça?
Ah, bah, j'étais sûr. Attendez, j'essaye.
Bien sûr.
Et oui, alors, bien sûr qu'il s'est
et
fait.
Alors,
et ben voilà.
Absolument pas répété.
Pop de Gérard Lefort qui nous lance les Pop News.
Sorti aujourd'hui en DVD d'un film que nous avions beaucoup aimé au point de lui consacrer une émission, la première réalisation du comédien Paul Dano, Wildlife, une saison ardente, qui met en scène dans les années 60 l'éloignement puis la séparation d'un couple, Carey Mulligan et Jake Gyllenhaal, vu à travers les yeux de Joe, leur ado.
Mom, is that okay?
Of course he is. His pride got hurt. That happens sometimes.
You don't have to worry about anything, Joe.
There comes a time when a man needs something more to hang his hat on.
Got this hum inside my head. I need to do something about it. You understand?
Wildlife, ça sort aujourd'hui en DVD et en Blu-ray. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission qui lui était consacrée avec les interviews de Carey Mulligan et Paul Dano sur franceinter.fr.
Préparez-vous à frémir pendant 10 épisodes avec Chambers, l'histoire de Sacha, jeune femme ayant survécu à une crise cardiaque et qui devient obsédée par la donneuse qui lui a permis de survivre au point de développer des traits de caractère propres à la défunte, y compris les plus sinistres. Dans le rôle de la très inquiétante mère de la donneuse, Uma Thurman. Ambiance.
Je veux connaître qui est à l'intérieur de moi. Je vois des choses que ma donneuse voyait. Oh putain. Ça devient vraiment bizarre, Sacha.
Mais je suis sûr qu'un jour, quand on y repensera, on se dira que cette malheureuse crise cardiaque aura été la meilleure chose qui te soit arrivée.
Uma Thurman, on vient de l'entendre, qui parle donc très bien français. Chambers, c'est ce vendredi sur Netflix.
Et une petite cover pour terminer, Weezer qui reprend Tears for Fears. Avec Tears for Fears, voici leur version commune de Everybody Wants to Rule the World. C'était sur le plateau de Jimmy Kimmel et évidemment, on vous met la vidéo sur la page de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Uma Thurman ?
Oui, bien, ouais, la voix française de Uma Thurman. Bravo ! Avant d'accueillir Denis Parot, le réalisateur du film Coming Out, on écoute un classique, Izzo. C'est un morceau signé Jay-Z.
Welcome, ladies and gentlemen, to the eighth wonder of the world. The flow of the century. Oh, it's timeless. Ho! Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. I appreciate that. H to the Izzo, V to the Izze. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. Was herbing them in the home of the turbans. Got it dirt cheap for them. Plus, if they were short with cheese, I would work with them. More than we got rid of that dirt for them. Wasn't born hustlers, I was birthing them. H to the Izzo, V to the Izze. For cheesy, my kneesy, keep my arms so breezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Haters want me clap the chrome, it ain't easy. Cops wanna knock me, DA wanna box me in. But somehow, I beat them charges like Rocky. H to the Izzo, V to the Izze. Not guilty, he who does not feel me is not real to me, therefore he doesn't exist. So poof, vamoose, son of a bitch. H to the Izzo, B to the Izze. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. H to the Izzo, B to the Izze. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izze. Not guilty, y'all got to feel me. H to the Izzo, B to the Izze. That's the anthem, get your damn hands up. I do this for my culture, to let them know what a nigga.
nigga look like when a nigga in a roaster. Show him how to move in a room full of vultures. Industry shady, you need to be taken over. Label owners hate me, I'm raising the status quo up. I'm overcharging niggas for what they did to the cold crush. Pay us like you owe us for all the years that you hold us. We can talk, but money talk, so talk MOBA. H to the ISO, P to the ISA. That's the anthem, get your damn hands up. H to the ISO, B to the ISA. Not guilty, y'all got to feel me. H to the ISO, B to the ISA. That's the anthem, get your damn hands up.
ISO de Jay-Z ou Jay-Z, comme dit Charline. C'était sur
comme
l'album.
Dit tout le monde, hein, a priori.
C'était sur l'album The Blueprint, qui est sorti, je le rappelle, le 11 septembre 2001. Choix judicieux. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes toujours en compagnie de Gérard Lefort. On va continuer cette spéciale cinéma chicha avec le réalisateur de Coming Out qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Denis Parot.
Bonjour.
Et bienvenue dans Pop, Pop, Pop. Denis, vous venez nous présenter Coming Out, votre premier film qui sort en salle mercredi prochain. Alors, je pitch. Coming Out, comme son nom l'indique, ce sont des jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans du monde entier qui ont décidé de faire leur coming out via des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le point de départ, c'est une vidéo YouTube sur laquelle vous êtes tombé il y a 2 ans. Quand vous avez fait votre propre coming out, il y a 30 ans de cela, Denis Parot, Internet,
ah oui, ça date.
Internet n'existait pas. Ça aurait pu changer beaucoup de choses pour vous.
Pour moi, ça aurait tout changé. Ouais, c'est vrai que ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait fait mieux comprendre ce que je ressentais, ce qui j'étais, comment me situer par rapport aux autres. C'est sûr, ouais, je pense que ça a changé beaucoup de choses.
Internet a changé beaucoup de choses, vous voyez, Charline, je vous le répète.
Mais c'est vrai, moi je suis toujours persuadée que ça ne marchera pas cette histoire. Les gens présents dans le documentaire vous ont-ils expliqué pourquoi ils avaient filmé leur coming out?
Oui, je pense qu'il y a pas mal de raisons. La première, c'est vraiment témoigner et d'aider les autres. C'était vraiment, voilà, de façon de dire, voilà, moi j'ai fait comme ça avec mes parents, allez-y, voilà mon expérience. Et puis, c'était une façon de faire en sorte que ça se passe mieux pour les autres, quoi.
Il n'est pas très loin de votre personnage canois, là, Marilyn, non?
Je trouve, oui. De toute façon, Marilyn est la marraine officielle de Coming Out que j'ai vue grâce à vous.
Ouais. Ah, la chance.
Non, mais c'est un film super. C'est ce qu'on appelle du beau travail. C'est pas un chef-d'œuvre, mais juste, je peux lui poser une question.
Allez-y, Gérard.
Vous avez été monteur, vous?
Oui, c'est ça, c'est mon
voilà.
Monteur image.
Le montage du film est extraordinaire. Et comment on fait pour les fameux intermèdes? Comment vous avez fait pour... Parce qu'il y a un personnage comme ça, d'un mec qui saute à la corde, c'est irrésistiblement drôle.
Ouais.
Comment on évite le copier-coller qui... Parce que ça pourrait durer des heures, vous avez dû en voir des centaines, non?
J'en ai vu des milliers, ouais. J'en ai vu plus de 1200. Donc ça a été un long travail pour regarder. Et c'était passionnant, quoi. Et c'est vrai que j'ai voulu montrer Adam qui fait de la corde à sauter, en tout cas, qui est compétiteur professionnel en corde à sauter, c'est sa vie, quoi. Et je voulais montrer des vidéos de ça parce que il a peut-être posté 200 vidéos. Il y a 199 vidéos sur la corde à sauter, parce que c'est son truc. Il est du sport fort, il fait des compétitions dans le monde entier, quoi. Et il y a une vidéo de coming out. On pouvait pas ne pas montrer, c'était aussi.
Bien sûr, et ça sert donc d'intermède entre tous ces témoignages. Vous avez visionné 1200 vidéos de coming out. Hein. C'est énorme pour en sélectionner 19 jeunes provenant des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, du Japon, d'Australie, de Russie, d'Afrique du Sud ou de France, avec par exemple le témoignage d'Ulysse.
Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 21 décembre 2015 et ce soir est le grand soir. Je vais faire mon coming out en tant que transgenre à ma mère et mon beau-père. Ça fait depuis cet été que je voulais te le dire. Ça fait environ 5 ans que j'y pense, même si j'ai toujours su au fond de moi. Je veux que tu saches surtout que c'est pas du tout en rapport avec toi et que t'as toujours été une très bonne mère pour moi. Je me dis que je suis très belle en fille. Je suis pas une fille.
Voilà un extrait de Coming Out, le film de Denis Parot qui sort très bientôt sur les écrans. Ces vidéos, Denis, n'auraient pas pu exister il y a 20 ans. Et dans 20 ans, on peut imaginer qu'elles existeront sous une forme encore très différente. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça raconte plutôt de notre époque?
Pour moi, ça raconte notre époque, justement, quoi. C'est vraiment, moi, je suis monteur image à la base, donc c'est mon premier film en tant que réalisateur. Et j'ai vraiment traité ça comme des images d'archives, mais ultra contemporaines, qui parlent de notre société, du rapport à soi, du rapport à l'autre, comment s'accepter, comment accepter, se faire accepter par les autres. Pour moi, c'est un film plus général aussi qu'un film militant LGBT, comme on peut en voir. C'est un film sur la famille, c'est un film sur, je conseille vraiment aux parents d'aller voir le film parce que c'est un film aussi sur ce que c'est être parent. Et comment recevoir ce genre de paroles. Ouais.
Il y a une phrase qui revient souvent dans la bouche des parents et qui prouve bien le chemin qui reste à parcourir, c'est ton choix.
Ouais, c'est des clichés vraiment qui reviennent très très souvent.
Donc, c'est dur hein, quand même, hein. C'est ton choix.
Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, bah, il faut redire, moi ça me paraît incroyable de devoir le dire encore, mais il faut répéter que ça n'est pas un choix. Et Luc dans le film il le dit très bien, quand on lui dit qu'il a choisi d'être gay, il renvoie, mais vous, quand est-ce que vous avez choisi d'être hétéro, quoi? Voilà, c'est vrai, bah, personne ne choisit d'être hétéro ou gay ou lesbienne ou bi ou trans, voilà, c'est tellement évident qu'il faut encore le répéter, quoi.
Denis, vous n'avez pas un parcours militant, mais avec ce film, vous voulez apporter votre petite contribution, et je vous cite, hein, aider à faire bouger les lignes. Est-ce que vous pensez que certains jeunes gays vont aller le voir avec leurs parents pour faire leur coming out? Est-ce que ça peut aider à faire un coming out plus en douceur?
J'en suis sûr, et puis j'ai déjà eu j'ai fait des festivals, dont un en Espagne, à Barcelone, et là, pendant la séance, c'était avec des scolaires, avec des collégiens et lycéens, et il y a deux jeunes qui ont fait leur coming out en direct, devant leur lycée, quoi. C'était assez incroyable, après la projection, quoi. Parce qu'en fait, il y a un jeune pendant la séquence où Daniel, une séquence assez dure, où il se fait virer de chez lui, il y a un jeune dans la salle qui a ri par rapport à ça, de façon assez incroyable. Donc il y a une jeune fille qui s'est levée à la fin de la séance en disant « j'ai honte d'être dans cette salle, de voir quelqu'un qui a pu rire de ça ». Et donc il y avait un débat qui s'est échangé avec lui, un peu rude, et elle a dit « moi je suis lesbienne, et c'est comme ça, si tu veux pas l'entendre, tant pis quoi ». Donc tout le monde était un peu choqué, pardon, je termine, et il y a un autre jeune qui s'est levé, il a dit « moi aussi je suis pédé et je t'emmerde
». Gérard Lefort, c'est réjouissant quand on se rend compte que le cinéma sert à quelque chose, de manière aussi directe.
Là, c'est vraiment, c'est faire utilité que de faire un film comme ça. Mais c'est bien aussi quand les films ne servent à rien. C'est-à-dire que quand ils sont pas, soi-disant, pour faire des entrées, pour faire du gna-gna, machin, et qui, il y a de l'acte gratuit dans le cinéma qui est magnifique. Mais là, cet acte est gratuit aussi, puisque c'est un boulot formidable. Je peux poser une petite
question. Allez-y.
Alors, sans jeu de mots, il y a un continent noir, c'est l'Afrique. Vous avez un gars en Afrique, une fille ou un gars en Afrique du Sud?
En Afrique du Sud,
c'est tout simplement parce qu'il y a rien.
Exactement. Voilà. C'est significatif. Aussi qu'il n'y ait pas de vidéo d'Afrique et du Moyen-Orient parce qu'il n'y a pas de vidéo sur Internet. Donc,
Et le documentaire est très équilibré. Hein. On y voit des réactions très différentes à l'annonce, très violentes, comme celle dont vous venez de parler, ou extrêmement apaisées. Majoritairement, quelle était la teneur des vidéos que vous avez visionnées sur les 1200? La tendance, c'était plutôt quoi?
La tendance était plutôt, plutôt positive. Je pense que les jeunes, peut-être, qui font ce genre de vidéo, peut-être imaginent que ça va bien se passer, ou en tout cas, l'apprendre de cette façon-là. Et pour moi, c'était important de faire un film aussi joyeux, quoi, parce qu'on toujours on parle des LGBT d'une façon assez dramatique.
Des moments très drôles. Hein.
Voilà, c'est vraiment. Ça. Je voulais aussi que le film s'ouvre et se termine, sur des séquences drôles et touchantes, parce que c'est aussi la vie, que ça devrait être banal, normal, et qu'on devrait même pas, être une question. En fait, on devrait même pas avoir à faire ce genre de vidéo, juste présenter son copain ou sa copine à ses parents, et c'est terminé.
Les réseaux sociaux sont rarement bienveillants, hein, pour rester dans l'euphémisme, et souvent trash, homophobes. C'est une forme de courage extrême quand même de faire publiquement un coming out.
Je trouve que ces jeunes ont beaucoup de courage. C'est assez incroyable, et je ne sais pas s'il y a une part d'inconscience ou une part de courage. C'est peut-être un peu des deux, et en tout cas, ils se donnent du courage chacun, quoi. Il y a même un jeune qui disait, moi j'aurais pas pensé à faire ce genre de vidéo, mais j'en ai vu une et je me suis dit, ah, ok, à mon tour, je la fais aussi parce que ça va aider d'autres. Il y a une sorte de fil comme ça qui se refile les uns les autres, c'est assez incroyable.
Bien, Coming Out, ça sort en France mercredi prochain, on l'aura compris, c'est un film d'utilité publique, avant une sortie en Italie et en Pologne.
Je serais curieux d'aller voir. Bon courage, ça va être sympa la sortie en Pologne.
Bon, je vous coupe messieurs, si je peux me permettre, parce qu'il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission, et j'y vais de ce pas. Allez, oh là là. Qu'est-ce que c'est encore ça? Où suis-je? Mais qui sont tous ces gens? Oh, je suis à la Villette, à l'expo Toutankhamon, génial! Waouh, mais il y a une salle Gilles Jacob. Bon, je vais aller voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Gilles qui est dans un sarcophage là-bas. Gilles, vous savez que vous êtes... la seule personne vivante momifiée ici ?
Bonjour, oui, je sais.
Alors, dire une performance de rue, vous savez, ces artistes de, devant le centre Pompidou, là. Vous êtes venu en sarcophage ?
Non, je suis venu tout en taxi.
Ah, tout en taxi. Oui, c'est drôle, Gilles. Mais ce qui est drôle, c'est que nous recevons Gérard Lefort aujourd'hui.
Oh, mais il m'a bien pourri la vie avec ses papiers de merde.
Oui, bon, ça va, ça, c'est une vieille histoire. Vous avez un message pour lui ? Il vous écoute.
Gérard, si tu reviens, j'annule tout.
Ah, c'est crypté, ça, comme message. Bon, écoutez, j'ai la vinyle qui va mettre tout le monde d'accord. C'est Al Green, le Stead Together. Allez, on reste tous ensemble. C'est un autre extrait de la BO de Pulp Fiction. Stead Together, Al Green, voilà une chanson que j'écouterai, je pense, jusqu'à mon dernier souffle. Denis Parot, Gérard Lefort, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de transformer ma cave en musée. Quel objet seriez-vous prêt à me laisser en souvenir tous les deux, Denis Parot?
Pas un objet. Ce moment qu'on a passé ensemble, voilà, c'est un bon moment.
Ce moment qu'on a, ah, ouais. C'est joli ça. Donc, voilà une jolie idée.
Et c'est lui une corde à sauter aussi pour qu'il s'entende.
Une corde à sauter, très bien.
Gérard Lefort, il va falloir topper ça.
Oui, toi, n'as pas besoin d'une corde à sauter pour avoir la ligne. Eh bien, moi, ça serait un souvenir de Cannes pour rester dans le. C'était Coluche déguisé en France moche pour se moquer un peu de France Roche, de la délicieuse et adorable. Mm-hmm. C'est un souvenir de rigolade où il arrivait sur le plateau avec Deniso et il disait. Ah, je suis crevé, j'ai fait 100 mètres sur la croisette. Ça, bon, voilà, pour moi, c'était Cannes. Et c'était l'immense Coluche, évidemment.
Je prends tout ça. Merci. Denis Parot, Coming Out, votre premier film sort mercredi prochain. C'est plus que recommandé par Pop Pop Pop. Tout comme votre livre, Gérard Lefort, La foire aux vanités, qui sort, lui, dans quelques jours aux éditions Hors Collection. D'accord. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Théo Gomard, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, oh, Julianne Moore. Ça c'est bien.
Oui.
Oh, qu'est-ce qu'on est content. Et avec elle, le musicien Wax. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve à la pointe ou une Yeuvesse, suivez-nous. Ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos momies sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
En train de s'étouffer la
oui.
momie.
Et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.